dispute. Spectacle vivant. Arne Laporte.
Autour de moi ce soir, Marie-Josée Sirache, Marie Sorbier, Anna Segalevitch et à notre affiche, un ennemi du peuple, Henrik Ibsen, mis en scène par Jean-François Sivadier, Logique imperturbable du fou, texte adaptation mise en scène Zabou Breitman, Tchekhov à la folie, soit deux pièces, La demande en mariage et L'ours, d'Anton Tchekhov, mise en scène par Jean-Louis Benoît, et puis un coup de cœur de Marie-Josée Sirache pour Départ volontaire de Rémi De Vos, mise en scène Christophe Rauch. Nous ouvrons cette dispute avec la nouvelle production mise en scène par Jean-François Sivadier, un ennemi du peuple d'Henrik Ibsen. En ce moment, à l'affiche de l'Odéon Théâtre de l'Europe, il y aura la saison prochaine une très longue tournée qui débutera à Lille pour s'achever vers Saint-Quentin-en-Yvelines et qui passera par Lyon, par Dunkerque, Clermont-Ferrand, Angers, Perpignan, Marseille et quelques autres. Donc soyez attentives et attentifs, ça peut passer près de chez vous. Le point de départ de cette pièce d'Ibsen, c'est une situation, il est vrai, assez délicate, un vrai dilemme pour le docteur Stockmann, puisqu'il découvre que les eaux de la station thermale de son village sont empoisonnées, alors même que la création de cette station a permis au village de sortir de la crise dans laquelle il était plongé. Le docteur pense que son devoir est de prévenir la population, ce qui ne sera pas sans poser évidemment de graves problèmes au maire de la municipalité, qui n'est autre que son propre frère. Je m'arrête là pour le résumer. Je vais vous demander dans un premier temps de résumer votre sentiment sur ce spectacle, un sentiment que vous développerez par la suite, Marie Sorbier.
Je trouvais que c'était un travail très vivifiant qui, pour la première fois, je crois, m'a fait comprendre et aimer vraiment ce texte d'Ibsen.
Anna Segalevitch.
J'ai noté exactement la même phrase,
et vivifiant. Ben voilà, d'accord.
Je trouve que c'est un spectacle vivifiant aussi et un théâtre qui va très bien à Jean-François Sivadier et au couple Jean-François Sivadier, Nicolas Bouchaud.
Vivifiant, Marie-Josée Sirache, ou un autre mot, peut-être, un autre terme?
Ibsen a inventé la notion de lanceur d'alerte.
Ben voilà, un extrait de ce spectacle.
Monsieur le rédacteur, monsieur le préfet, il vient probablement pour affaire. En partie, c'est pour un article à paraître dans le journal. Je m'en doute, il paraît comme mon frère est un contributeur particulièrement fécond pour le messager du peuple.
Oui, il n'hésite pas à écrire dans le messager du peuple, quand il a quelques vérités à dire.
Oui, ne voulez pas.
Non, merci.
Mon Dieu, je ne lui reproche nullement d'écrire pour le public auprès duquel il pense trouver le plus grand écho. Et d'ailleurs, je n'ai personnellement aucune hostilité à l'égard de votre journal, Hofstadt.
Oui, c'est ce qu'il me semble aussi.
En somme, il règne un bel esprit de tolérance dans notre ville, un vrai bel esprit civique. Et la raison en est que nous avons une grande cause commune qui nous unit, une cause qui concerne au même titre tout citoyen sensé.
L'établissement thermal,
oui, précisément. Nous avons notre grand établissement thermal flambant neuf.
Le cœur battant de la ville.
Attention, les bains vont devenir la première source de revenus de la ville, en fait. Il ne faut pas en douter.
C'est aussi ce que dit Thomas.
Quel essor tout à fait remarquable pour l'endroit en quelques années. L'argent afflue, avec les gens, il y a de la vie, de l'animation, des activités, des festivals, du théâtre. Le prix des maisons et des terrains augmente de jour en jour.
Et le chômage diminue.
Mais ça aussi, oui. Donc, le fardeau de la pauvreté, d'une manière réjouissante, pèse de moins en moins sur les classes possédantes. Et cela devrait s'accentuer encore si seulement nous avons cette année un bon été, un grand nombre de visiteurs, quantité de malades qui feront la renommée de l'établissement.
Anna Segalevitch, on commence par une petite description de l'espace de jeu, comme vous le faites si bien. Et du coup, ça donne peut-être aussi quelques indications, sans doute, de mise en scène.
De mise en scène et de parti pris. Alors, c'est une scénographie typiquement sivadienne, si je puis dire.
C'est-à-dire,
oui, je vais expliquer, bien sûr. C'est-à-dire une scénographie où il y a vraiment le plateau comme un grand terrain de jeu, qui est à la fois assez anarchique, sur fond noir, avec en même temps toutes sortes d'accessoires, hein. Voilà, le plateau est peuplé de toutes sortes d'accessoires. En l'occurrence, trois mini fontaines qui vont représenter donc les bains de la ville. On a deux lustres qui pendent, enfin qui pendent, qui sont accrochées. On a quelques chaises un petit peu partout, une table à manger en bois à cour. On a à jardin, à l'avant-scène, un piano miniature rouge sur un petit plateau d'écolier. On a une chose importante, quelques pans de rideaux en plastique transparent qui sont un petit peu comme ça partout, avec en fond de scène un grand pan de plastique transparent et puis quelques petits arbustes qui se promènent. Alors quand le spectacle commence, comme aussi souvent chez Sivadier, il y a quelques acteurs qui se promènent un petit peu sur la scène, hein, qui lit le journal, une qui est assise, l'autre qui est affairée à... Voilà, s'occuper un petit peu en scène, assez calme comme ça. Et puis, le spectacle commence avec l'arrivée du premier personnage qui est Billing, qui va avoir un premier dialogue avec la femme de Stockmann. Petra, c'est la fille. Catherine, qui est jouée par Agnès Sourdillon. Et là, le spectacle va commencer. Elle va leur servir un dîner. Ils sont tous ensemble. Tout ça est très joyeux, ludique. Enfin, cette façon... Dont Jean-François Sivadier met les acteurs ensemble avec toujours beaucoup d'adresse au public. Alors là, particulièrement beaucoup d'adresse au public, et ce sera même l'objet d'un moment très important à l'acte 4 où Nicolas Bouchaud va à ce moment-là sortir un petit peu du texte d'Ibsen pour un moment d'improvisation écrite, mais qui peut aller vers de plus d'improvisation en fonction
c'est
des...
C'est le fameux moment du discours.
Voilà, il faut passer moment du discours.
Qu'est-ce qu'on va dire à cette
population ? Qui est très très important. Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire ? Enfin, surtout, comment on va la convaincre ? C'est le moment où le personnage de Thomas Stockmann, joué par Nicolas Bouchaud, doit convaincre la foule de le suivre parce qu'il a raison.
C'est vrai que c'est un moment qui est toujours complexe, intéressant pour les metteurs en scène.
Qui est ici phénoménal.
Peut-être qu'on se souvient, il n'y a pas si longtemps de ça, de Thomas Astermeyer, qui avait aussi instauré du débat participatif dans sa salle. Les acteurs de Astermeyer demandant la parole, donnant la parole aux uns et aux autres, et y répondant, eux d'ailleurs en français, alors qu'ils jouaient le texte en allemand. Bon, ça fait partie de ses prouesses internationales. Alors, Marie-Josée Sirach, on est dans le vif de cette dispute. Ibsen, lanceur d'alerte, oui.
Alors, c'est curieux que vous citiez Ostermeyer, parce qu'effectivement, moi aussi j'avais en mémoire le très beau spectacle d'Ostermeyer. Et je trouve que Sivadier prend le contre-pied de la mise en scène d'Ostermeyer, et c'est là où c'est très intéressant. C'est-à-dire que tout ce qui avait pu nous enthousiasmer dans... En tout cas, ce qui avait pu m'enthousiasmer dans la mise en scène de Stermeyer, tout d'un coup, je trouve qu'elle est tout le côté, le ressort un peu démagogique qu'elle contenait apparaît au grand jour, puisque Sivadier, son parti pris est de ne pas dire au spectateur à vous la parole, ce côté participatif un petit peu gratuit, mais de poser et de laisser les questions que soulève cette pièce sur le plateau pour que les acteurs s'en emparent et s'affrontent. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je trouve que ces derniers temps, on croule sous l'avalanche de l'épithète politique dans le théâtre. Tout serait politique, tout est politique, la politique est dans tout, et le théâtre. Et tout le monde se revendique de ce terme-là. Et donc c'est plutôt intéressant qu'on re-questionne la place du politique ou de la politique dans le théâtre. Mais je trouve qu'ici, la façon dont il fait s'affronter la question du pouvoir, du contre-pouvoir, la capacité du citoyen à résister ou pas, à relever la tête, tout d'un coup à se retrouver isolé, les compromis. Où est-ce qu'elle est la part d'humain ? Comment, quand on se résigne, quand on est battu, quand on est mis en minorité, que fait-on ? Est-ce qu'on part au bout du monde, ou est-ce qu'on continue de vivre malgré cette histoire-là ? Et comment on fait pour continuer de vivre ? Tout ça vient sur le plateau, et c'est extrêmement intelligent. C'est d'autant plus surprenant que ce que vous disiez dans l'acte 4, ce meeting qui est complètement phagocyté par le préfet, le frère donc de Stockmann, et Stockmann se retrouve coincé, et la façon dont lui se lâche vient complètement court-circuiter la bonne parole, l'idée du consensus même, et ça déborde, et la rage qui est là, qui est continue, évidemment, fait soudain, résonne soudain très fort avec les problématiques que l'on connaît aujourd'hui.
Marie Sorbier, premier regard cette fois. Vraiment.
Mais alors justement, ce qui m'avait incroyablement gêné avec la mise en scène d'Ostermayer, que j'avais vu à Avignon, je crois, en 2014, c'était ce... Il y avait de la démagogie qui dégoulinait dans toutes les pores de cette mise en scène. Moi, ça m'avait absolument horrifiée, ce débat public avec ces gens qui intervenaient. J'avais trouvé ça terrible, très gênant. Et pour moi, le texte d'Ibsen, ce texte-là, j'avais beaucoup de mal à chaque fois à l'entendre parce qu'il y a ce passage obligé de ce moment public, du débat public, où les metteurs en scène ne savent jamais trop comment le traiter, ou en tout cas le traitent de façon souvent... à mon sens problématique parce que démagogique, et pour une fois, je crois que c'est la première fois que je vois une mise en scène où justement il le traite avec une grande intelligence, parce qu'il ne l'évite pas, c'est-à-dire il n'est pas en train de dire on va passer à la scène suivante ou un artifice d'un archétype de modernité qui ferait que voilà, il s'en passerait, pas du tout, il le prend de front, donc on rallume la salle, on s'attend à ce que la parole soit donnée au public, elle ne l'est pas vraiment, et c'est Nicolas Bouchot qui est prodigieux. Il y a quand même un monologue à ce moment-là. Alors, si c'est un peu de l'improvisation, je ne sais pas ce qu'il raconte tous les soirs. Mais en tout cas, le soir où j'étais, qui était mais d'une justesse incroyable, parce que justement, il n'était pas dans un débat politique auquel on aurait pu s'attendre. Il était dans d'autres choses. Nous, il nous a parlé de son métier d'acteur. Et c'est pourquoi, quand le quatrième mur s'effondre, donc au moment où la salle se rallume et qu'on est dans un débat public, en fait, il ne pouvait plus faire son métier d'acteur, puisque ce qu'on lui demandait, c'était d'aller attraper le public et... essayer de, justement de communiquer avec lui, que lui, en tant qu'acteur, c'était pas ça qu'il voulait faire, mais c'était faire son travail, c'est-à-dire dire son texte, et puis participer avec ses partenaires en scène, et pas aller chercher le rire ou l'approbation du public.
Ce qui est drôle, parce que Nicolas Bouchot, il développe depuis quand même quelques années ce type exact de travail.
Et c'est justement pour ça que c'est intéressant, la mise en abyme est incroyable, et ce moment-là est d'une justesse et d'une profondeur incroyable.
Oui, c'est Galevitch.
Ben oui, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que le parallèle qui est d'aller du côté du théâtre, en fait, c'est la vraie façon de se mettre en jeu. Parce que un acteur qui a un discours politique et qui donne des leçons et qui va dans la démagogie et qui fait parler les spectateurs, il y a quelque chose d'artificiel, forcément. Enfin... Ou alors c'est génialement fait, mais bon, c'est quand même, ça me paraît très très compliqué. Là, le fait de redistribuer les cartes en parlant de lui, en se mettant en jeu lui, en disant mais j'en peux plus du rapport public, ça fait 30 ans que je fais du rapport public, c'est écrit ça, hein, parce que j'ai regardé le texte, donc ça c'est sûrement à base d'improvisation, mais c'est écrit. Et le fait qu'il fasse ça, ça croque génialement le personnage, parce qu'il y a de l'ironie dans ce texte et il y a de l'auto-ironie dans ce texte. Et donc la mise en abîme est totalement là, parce que oui, il se met en jeu lui-même, il se moque de lui-même, parce qu'il ne fait que ça du rapport public Nicolas Bouchot à s'adresser, et avec Sivadier, et aussi avec Éric Didry. Donc, c'est l'acteur typiquement du rapport public. Il n'y a pas plus que Nicolas Bouchot qui le fait d'ailleurs. C'est ce que j'aime aussi beaucoup chez lui, c'est qu'il arrive à avoir ce rapport public, mais sans démagogie. Parce qu'il ne prend pas les spectateurs pour des idiots. La façon d'ailleurs dont il va dans la salle à un moment donné pour chercher quelqu'un et pour le mettre sur scène, il ne met pas les gens mal à l'aise. Il arrive à trouver cette justesse qui fait que ça n'est jamais gênant. Et ça, c'est absolument phénoménal, la façon dont il fait ça. Et c'est vrai que peut-être que nous, on est habitués à voir Nicolas Bouchot en scène parce que ça fait 15 fois qu'on le voit dans plein de spectacles, mais j'étais par exemple avec des gens qui le découvraient pour la première fois et qui étaient totalement fascinés en fait par c'est quand même un phénomène d'acteur et je pense que c'est un acteur vraiment très très important aujourd'hui.
C'est certain.
Nous on s'y habitue, mais c'est quand même très très inhabituel et très très extraordinaire.
On s'habitue pas parce que des fois quand c'est moins bien, on n'est pas content. On l'a dit quelques fois ces derniers temps le concernant. Donc mais bon. Il n'y a pas que cette scène-là dans ce spectacle, il n'y a pas que Nicolas Bouchot sur scène, c'est pas un seul en scène, donc quand même parler un petit peu du reste.
Alors juste quand même,
Marie-Josée Sirach.
Parce que Nicolas Bouchot...
Non, mais on ne peut pas parler des autres.
Non, mais si, bien sûr. Mais parce qu'il ne peut être Nicolas Bouchot que parce qu'à côté de lui, il a des acteurs formidables. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul en scène, c'est pas un seul en scène. Ce qui est fascinant, c'est sa capacité à s'interroger sur son métier d'acteur. Mais, et donc, pour lui donner la réplique, face à lui, il a Vincent Guédon dans le rôle du frère et du préfet, donc avec qui il y a un affrontement fratricide... Il n'y a pas mort, mais enfin bon, il n'y a pas mort d'homme, mais aussi Cyril Botorel, Sharif Andoura, Jeanne Lepers et Agnès Sourdillon dans le rôle de son épouse, qui a très très peu de textes, mais le peu de textes qu'elle a, elle est d'une justesse, elle est impressionnante. C'est-à-dire que le ton, le soupir, la façon de casser sa phrase, elle est prodigieuse elle aussi. Et tout cela fonctionne en plus dans une scénographie où il y a, ce que vous disiez, des grands murs transparents, c'est-à-dire on est dans la transparence toute. Mmh. Aujourd'hui, c'est cette idée de transparence permanente, et finalement c'est une transparence qui floute tout. Mmh. Et en fonction de là où l'on parle et qui parle, le propos n'est plus les mêmes.
Marie Serbier.
Oui, je voulais revenir juste sur la mise en scène, parce que le travail qu'a fait Jean-François Sivadier et Véronique Timsit, qui est la partenaire dramaturge des spectacles d'Éric Didry notamment, où joue Nicolas Bouchaud, et je trouve incroyablement juste, parce que dans cette pièce, on l'a dit, qui est politique et sociétale, il est facile d'avoir des apartés ou des clins d'œil efficaces à l'actualité d'aujourd'hui. On s'attendait à avoir, je ne sais pas, ça aurait pu être les Gilets jaunes ou les élections européennes qui arrivent. Enfin, on aurait pu avoir tout ça parce que tout est très au présent. Cette pièce, elle aurait pu être écrite la semaine dernière. Donc, c'est facile d'aller là-dedans. Et ce qu'ils ont fait de très intelligent, c'est qu'ils ne sont pas tombés là-dedans. Ils sont restés dans un texte qui est du coup atemporel. Et ce qui le rend contemporain et ce qui le rend écoutable par tous aujourd'hui, c'est que j'ai eu l'impression que chaque mot prononcé par chacun des acteurs avait du sens. Chaque phrase est complètement projetée avec le sens qu'elle a. C'est-à-dire qu'ils savent ce qu'ils jouent et ils comprennent tout ce qu'ils jouent. Et c'est pas si courant avec des grands spectacles comme ça. Et sur 2h45, d'entendre et de comprendre la moindre intention, c'est quand même une jouissance incroyable de spectateur.
Puis il bénéficie, il faut le dire, d'une nouvelle traduction d'Éloi Recoin, qui est publiée chez Actes Sud Papier. C'est un excellent traducteur d'Ibsen. C'est pas son premier, il connaît vraiment ça sur le bout des doigts. Anna Segalevitch.
C'est un excellent traducteur, une excellente traduction. Et en effet, c'est la première fois que Sivadier monte une pièce d'Ibsen. Et ça paraît complètement évident quand on le voit. D'ailleurs, les thèmes finalement de cette pièce sont pas très loin de la vie de Galilée. D'ailleurs, Ibsen a écrit une pièce aussi là-dessus. Donc ça paraît en effet très évident. Et là où c'est réussi, c'est qu'il y a du drame, mais il y a toujours de la légèreté. C'est-à-dire que jamais on a l'impression qu'on nous donne la leçon. Et par exemple la scène de bascule où tout d'un coup donc Stockman découvre qu'en effet les eaux sont empoisonnées est une scène extrêmement drôle parce qu'elle est tournée presque tournée en dérision. C'est-à-dire que ils se voient en héros et ils organisent une sorte, enfin ça se fait de façon totalement naturelle, mais une interview avec le journaliste Hofstadt et avec donc Agnès Sourdillou qui joue le rôle de la femme fière de son mari, la fille trop fière de son père, et Nicolas Bouchaud trop content d'incarner le héros des temps modernes. Et donc tout de suite, ça donne le ton en fait de ce qui va se jouer après, où on se prend au sérieux, mais pas complètement non plus. La légèreté est toujours présente.
Beaucoup de raisons pour aller voir Un ennemi du peuple d'Henrik Ibsen dans cette mise en scène de Jean-François Sivadier. Alors pour l'heure et jusqu'au 15 juin à l'Odéon Théâtre de l'Europe, dans sa salle du 6e arrondissement. Et puis donc tournée, je l'ai dit, qui commencera le 8 octobre au Théâtre du Nord à Lille. Et puis ensuite, ce sera au Théâtre Firmin Gémier de Châtenay-Malabry. Au mois de novembre, au Célestin à Lyon, au Bateau-Feu à Dunkerque, au Théâtre de Caen et à la Comédie de Clermont-Ferrand. En décembre, à l'Archipel de Perpignan, au Théâtre National de Strasbourg. En janvier, au Quai à Angers, au Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg et à la Criée de Marseille. Et enfin, fin janvier, début février 2020, Saint-Quentin en Yvelines, dans la scène nationale. À suivre dans la dispute, logique imperturbable du fou, Tchekhov à la folie et départ volontaire.
France Culture. La dispute. Arne Laporte.
Nous poursuivons cette dispute avec logique imperturbable du fou, tout attaché. Texte, adaptation, mise en scène, Zabou Breitman. C'est en ce moment à l'affiche du théâtre du Rond-Point, un spectacle qui avait été créé dans le Hof d'Avignon en 2017 déjà. On se souvient peut-être que Zabou Breitman avait déjà en 2008 adapté pour la scène deux films de Raymond Depardon. C'était un spectacle qui s'intitulait « Des gens ». l'interpréter en duo avec l'encore très peu connu Laurent Lafitte. Cette fois, elle est allée puiser à plusieurs sources, et en premier à celle d'un film documentaire, Sainte-Anne, hôpital psychiatrique de Hélène Clipper. Mais on entendra aussi des résurgences d'Anton Tchekhov, de William Shakespeare, quelques mots de Zouk. Premier tour rapide pour résumer vos impressions, Anna Segalevitch.
C'est un spectacle bancal, mais qui m'a touchée.
Marie-Josée Sérache.
Bancal.
Et Marie Sorbier.
Je trouvais que c'était un ballet avec des jolies interludes qui rend quand même hommage à la lucidité de la folie.
Je peux m'approcher de vous ?
Ça coule de source que quand t'es enfermé ici, tu veux sortir.
J'ai beaucoup étudié la physique, les mathématiques, tout ça, énormément.
Et j'ai subi des électrochocs.
Je ne suis pas un malade, je ne suis pas un fou.
Pourquoi sommes-nous enfermés ici et vous pas? Où est la logique?
J'ai étudié également la médecine, la psychiatrie, mais peu.
J'ai pas besoin de traitement, moi.
Imaginez-vous à ma place?
À partir du moment où il existe des asiles et des prisons, il faut bien qu'il y ait quelqu'un dedans. Si c'est pas vous, c'est moi. Si c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre.
Je suis bipolaire.
Bonjour. Oui, c'est à toi que je parle.
C'est une histoire de fou.
Comment on dit la Terre? Le soleil, comment on dit le soleil?
Attends, comment tu me parles là? Déjà, tu baisses d'un coup.
Je suis désolée d'être ici.
Arrêtez de me faire chier.
Ok, je vais préparer l'injection. Je vais préparer l'injection. Il n'y aura plus de soucis, t'iras pas fumer, on va te mettre en pyjama nous-mêmes. Allez, hop.
C'était donc l'aguicheur de ce spectacle. On a compris que c'était pas un extrait, mais un montage effectué ici. Alors montage, oui, il s'agit beaucoup de montage. Alors Marie-Josée Sérache, dans un premier temps, là, c'est à votre tour de nous décrire un peu l'espace de jeu et la façon dont ça procède.
Donc des soignants, des soignés, des patients, des médecins, deux mondes qui cohabitent au quotidien. Qui vont se croiser, qui sont interprétés par quatre jeunes acteurs. Le plateau est nu, un mur au fond qui va séparer justement, peut-être, on ne sait pas trop de quel monde, la salle d'attente, le dehors, peu importe, avec une porte bocale. Tour à tour, ces quatre acteurs vont jouer une multitude de personnages et franchir la ligne invisible qui sépare les
soignants des soignés.
La folie, enfin.
Ça, c'est plus compliqué déjà.
Ce qui est un peu plus compliqué, un peu plus complexe. Tout ça se fait assez simplement, assez rapidement, c'est très efficace. On enlève la blouse, on la remet, il suffit qu'on change un petit détail. Après, au fur et à mesure, ils vont même porter des chapeaux de fou, des chapeaux à grelots, un entonnoir. Enfin, voilà, il y a tout un dispositif donc pour amuser, interroger, se poser la question en permanence du finalement, on est peut-être tous un peu fous, on est le fou de l'autre, on est toujours le fou d'un autre.
Marie Sorbier, pour entrer dans le vif du sujet.
Oui, moi j'étais assez sensible à cette proposition, notamment ou surtout peut-être grâce aux quatre acteurs, ces jeunes acteurs que je ne connaissais pas. On peut peut-être les citer.
Ah ben il faut, oui.
Antonin Chalon, Camille Constantin, Rémi L'Aquitant et Marie Petiot, qui sont, je trouve, tous chacun dans un style très différent. Ils ne se ressemblent absolument pas physiquement non plus.
Ils ont des corps différents,
des styles différents, on sent qu'ils viennent d'univers esthétique différent. Et ça, je trouve que ça fonctionne particulièrement bien sur le plateau. Et c'est ça qui m'a assez fascinée pendant cette heure et quart sur le plateau, de les voir eux jouer. Je trouve qu'ils développent une partition qui a un spectre assez large. Voilà. Et ça, c'était joyeux à voir. Donc c'est le gros point positif. Et l'adaptation aussi, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche dans cette mécanique huilée d'entrée, de sortie, de médecin. On ne sait plus trop qui est fou et puis finalement, ce n'est pas ça qui est très important. On vit des moments comme ça, des espèces d'instants suspendus de vie qui sont à la fois drôles et insupportables. Et puis on ne sait plus trop si on doit les trouver drôles tellement ils sont insupportables quand on y réfléchit deux secondes. Cette conscientisation du moment est assez intéressante, je trouve, par moment.
Anna Segalevitch.
Oui, alors voilà, moi je trouve que c'est en effet un spectacle bancal qui m'a pas convaincue de bout en bout, parce que je trouve qu'il y a des trous, et puis mais il y a aussi de très beaux moments. Et en effet, moi j'ai été très emportée et touchée par ce quatuor en fait qui forme tous les quatre, ce quatuor complètement hétérogène. Mais la bonne idée du spectacle, c'est d'avoir oser faire un spectacle aussi risqué avec de très jeunes acteurs. C'est-à-dire que c'est quand même extrêmement casse-gueule de faire un spectacle sur la folie, surtout comme elle le fait là, où elle n'est pas dans quelque chose de naturaliste, on est entre deux eaux tout le temps, donc on va par moments vers quelque chose de complètement onirique, hein. il y a l'atmosphère à la Lewis Carroll, elle le dit, hein, dedans, avec des oreilles de lapin, des pulls géants, des choses qui délirent réellement, et puis de la normalité totale et du naturalisme à d'autres. Donc, c'est un mélange de genres pas du tout évident, et donc, la bonne idée pour moi, c'est d'avoir pris ces jeunes acteurs, parce que, en fait, ce qui est beau, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de métiers, et le fait qu'ils n'ont pas beaucoup de métiers, je le dis pas du tout comme une critique, au contraire, ou comme ils sont très professionnels, hein, c'est pas dans le sens ils sont verts, mais ils ont une façon de se mettre en jeu qui est vraiment authentique. Et il y a une vérité qui se dégage d'eux, et quand on les regarde, on y croit, en fait, avec leur personnalité très différente. Et je pense que, alors peut-être que de très très grands acteurs pourraient faire ça, mais en tout cas des acteurs bons, normaux, confirmés, ajouterait une forme d'habileté qui enlèverait à l'authenticité de ce spectacle-là, ce qui fait qu'il y a des moments de grâce, en fait, dans le spectacle. Et c'est ce qui compte, je pense, au théâtre, voilà, d'avoir quelques instants absolument magnifiques.
Marie-Josée Serrache.
J'ai beaucoup aimé Les Poissons Rouges. Non, je me suis profondément ennuyée à ce spectacle. J'ai trouvé les propos extrêmement bateaux sur la psychiatrie, sur cette ligne de séparation invisible où chacun peut basculer d'un côté ou de l'autre, de la folie, de la non-folie. Qu'est-ce que c'est la folie? Tout ça m'a semblé totalement vain. On sent toutes les coutures, toutes les béquilles. Je trouve même extrêmement surprenant les propos sur la psychiatrie, c'est-à-dire le rôle qu'on fait jouer aux soignants à l'heure où quand même on est en train de démanteler la psychiatrie en France. Je trouve ça un petit peu léger, parce que je crois qu'il y a d'autres choses à dire. Donc je suis d'accord sur la légèreté, sur ces acteurs. Ces acteurs sont tout jeunes, effectivement, ils sont tout frais, on le sent. Ça fait quand même 2 ans qu'ils le tournent, hein, le spectacle. Ils tournent bien, donc ils connaissent leur partition, et ils sont impeccables, effectivement. Mais je trouve que le texte, quand même, moi c'est là où je trouve qu'il y a du bancal, c'est-à-dire que le texte n'apporte rien, il nous fait plaisir. Oui, on est fou, mais on n'est pas trop, on est un peu fou, mais finalement on est tous un peu fous. Et alors,
je résumerai quand même pas aussi rapidement.
Moi, je serais pas aussi radical que vous, Marie-Jeanne, mais j'entends ce que vous dites, et c'est vrai que les coutures, on les voit, et on voit bien ce qu'on veut nous dire.
Oui,
voilà, il y a une volonté, certes, de nous dire que voilà, n'est pas forcément fou celui qu'on croit.
Moi, je trouve pas ça vain du tout. Je pense que c'est au contraire de salubrité publique que de faire entendre ça à quand même un monde dans lequel on est tellement refermé sur lui-même, où la moindre aspérité, c'est absolument terrible. Enfin, on n'a plus le droit de rien dire, de rien faire, qu'il sorte absolument de... Il faut pas qu'il y ait un orteil qui dépasse de la ligne. Moi, je trouve que, justement, montrer qu'on peut à la fois marcher pleinement sur cette ligne, voire faire des pas de côté, je vois pas en quoi c'est vain de dire que ça
peut
exister.
Parce qu'elle
réintroduit
une norme, c'est-à-dire qu'il y a la norme de la folie, la norme... Ben si, moi, c'est l'effet que j'ai ressenti, en tout cas. C'est-à-dire que, à force de vouloir être dans l'empathie avec la folie, c'est quand même les mettre dans un endroit et les enfermer dans cet endroit-là. C'est-à-dire que leur espace, mental comme physique, il est dans un endroit déterminé. Or, la folie, elle est partout. Elle rejaillit partout. Elle est dans la rue. Alors, c'est vrai...
Mais pour moi, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce qu'elle le dit peut-être même juste un peu trop. Justement un peu trop, mais en tout cas elle le dit que la folie rejaillit partout. C'est ce qu'elle met en scène à la fin, quand elle met des personnes comme ça, des personnages qui sont dans la rue, qui sont tout ça. C'est, pour moi, c'est vraiment ce qu'elle dit. C'est justement la folie est partout et n'est pas fou celui qu'on croit. Après, c'est peut-être un tout petit peu trop dessiné, Mais le propos, je vois pas, je trouve pas que le propos soit attaquable.
Alors, le regard de Marie Sorbier sur cette question.
Mais moi, j'ai pas vu un propos politique là-dedans. J'ai senti ça beaucoup plus comme presque comme une exposition d'art brut. Quelque chose qui est donné comme ça, comme des espèces d'instants qui sont proposés. J'ai pas cherché à y trouver une logique ou en tout cas une cohérence là-dedans. C'est pas ça qui m'a intéressée.
C'est pas un propos politique, c'est un propos normé, je trouve. C'est tellement évident ce qu'elle dit sur la folie, c'est ce qu'on peut lire au quotidien. Je sais pas, moi je trouve que... les bonnes intentions ne font pas des bons spectacles.
Ça, c'est sûr.
Et là, c'est le cas.
D'accord là-dessus.
Pour moi, là, c'est flagrant. C'est-à-dire que je ne la soupçonne pas de vouloir mettre les gens dans des cases. C'est pas ça. Je trouve qu'elle se prend dans son propre piège parce que dans la façon dont elle travaille, les rapprochements des textes, le Tchekhov qui est quand même assez dur. Et puis ensuite, on va être gentil. Et puis le rôle qu'elle fait jouer quand même aux soignants. Bon, moi, tout ça m'a un peu gênée, quoi. Moi, un petit peu gênée.
Ouais, enfin, il y a quand même des bases documentaires qui existent, comme c'était le cas pour les films de Depardon.
Oui,
on se disait, mais c'est pas possible que ces choses-là existent.
Oui.
Les réunions à Sainte-Anne, c'est du verbatim.
Hein.
Dylan Tepper.
Comme la nouvelle de Tchekhov, hein, d'ailleurs, celle numéro 6, c'est terrible. Est-ce que, mais bon, alors, il y a longtemps, hein, j'en conviens, la psychiatrie n'était pas la même qu'aujourd'hui.
Et ça vous a pas gêné le côté avec les petits. Je comprends, enfin l'idée de l'autodérision, et on pousse jusqu'au bout, mais le côté des chapeaux à grelots, des oreilles de lapin, moi j'ai trouvé ça totalement...
Non, je pense que c'est vouloir mettre de la légèreté, l'humour et de
l'onirisme
et du non-réalisme.
Sortir de l'histoire,
propos de la folie.
C'est un peu souligné. Moi, ce que je reprocherais, c'est qu'on m'explique ce que j'ai déjà compris. Voilà. Mais je sais pas si je... J'ai pas l'impression qu'on donne la leçon là pour le coup non plus ou qu'on norme les choses, qu'on mette les gens dans des cases. J'ai pas ce sentiment.
Et puis je trouve que les moments de grâce dont vous parliez, Anna, ou ces moments de poésie qui quand même ressortent de temps en temps, font passer tout le reste de façon assez joyeuse. Moi, j'ai pas senti non plus de lourdeur ou d'insistance. Alors oui, je suis d'accord avec les ficelles, on les voit, on sait très bien ce qui va se passer.
Elles viennent de là, justement, si je peux permettre, Marie. C'est la volonté, effectivement, de pas trop s'apesantir, donc du coup de proposer quelque chose de plus léger, d'alterner. Alors
c'est ça qu'on
fonctionne
peut
plus ou moins, évidemment. Les coutures sont visibles parce que il y a la volonté de proposer différentes humeurs aussi.
Je trouvais notamment, il y a plusieurs fois dans ce spectacle où il y a des traverser comme quand ils traversent la diagonale du vide, comme ça, avec des yeux, alors que ce soit les patients ou les médecins, ce moment où en silence, comme ça, ils traversent leur petit chariot et ils te regardent, et puis ils sont très loin déjà, et on sent que tout le monde, évidemment, a les yeux tournés vers l'extérieur, alors qu'on est dans cet enfermement. Il y a des petits moments comme ça qui sont quand même moins surlignés et qui, du coup, je trouve, fonctionnent.
Oui, José Sirache.
Oui.
Qui revoit la parole.
Je trouve que c'est une folie bien propre qu'elle nous donne à entendre. Voilà, c'est ça.
Oh oui, c'est juste
parce
gentil.
Parce que l'onirisme, la poésie, ça surgit aussi parfois de propos extrêmement noirs, sombres, glauques. Et ça, elle évacue totalement cet aspect-là.
Oui, c'est ça qu'elle a voulu
faire. Elle ne fait pas un traité sur la folie non plus. Il ne faut pas lui demander de faire le spectacle qu'elle n'a pas fait. Là, on parle de celui qu'on voit. J'entends pas. Marie-José Sirache, vous avez dit ?
Non, mais peut-être qu'elle aurait dû y penser. Non, je sais pas. Non, je suis pas. Non, mais bien sûr, vous avez raison.
Non, mais c'est ce spectacle-là qu'elle a fait. Vous reprochez la légèreté,
cette fausse légèreté qui, moi, m'indispose.
Bon. Anna Segalévitch.
Mais non, mais je peux comprendre ce qu'elle dit.
Non, on peut comprendre.
Franchement, j'entends ce que Marie-José dit. Donc, je l'ai pas reçu comme ça, mais.
Ouais, moi pas du tout. C'est alors que je suis, je pense, sensible comme vous à cette question, on va dire, du traitement de la folie. Mais voilà, on a différentes propositions de différents auteurs, metteurs en scène. Et là, moi, ce spectacle-là, mais je crois que sur la verdeur de ces jeunes interprètes, moi, je l'ai vu, je pense, dans les toutes premières à Avignon. Il y a 2 ans, ils étaient déjà absolument en place. Donc le fait qu'ils tournent depuis 2 ans change peut-être un tout petit peu la mécanique, mais il y a quand même une mécanique de précision. Je trouve qu'il faut quand même aussi souligner qu'il y a sans doute un gros travail. Alors pas sur tout le spectre de la folie que vous auriez voulu avoir, Marie-José Sirache, mais sur une vision, un aspect, une couleur que moi je trouve à la fois drôle, inquiétante, dérangeante, tendre. C'est une façon de voir la vie qu'on ne voit pas si souvent et que ces personnes un peu différentes de nous voient très intensément. Moi, c'est ce que j'ai ressenti dans ce spectacle qui continue à se jouer, logique imperturbable du fou, jusqu'au 2 juin, et on n'a même pas parlé de Zouk. Je serais bien revenu sur elle. Au théâtre du Rond-Point. Alors, là, on est sûr que Marie-José Sirach a aimé, puisque c'est son coup de cœur. Le coup de cœur.
Absolument.
Pour Départ volontaire de Rémi DeVos, mise en scène par Christophe Rauque et qui se joue pour l'heure et jusqu'au 26 mai au Théâtre du Nord à Lille.
Oui. Soit un jeune homme, banquier de son état, dans une multinationale, qui apprend que la banque s'apprête à licencier 900 personnes dans l'entreprise et que donc ils ouvrent un guichet, ce qu'on appelle les départs volontaires. Ce jeune homme postule et tout d'un coup se projette dans son avenir en se disant ben voilà ce que je vais faire, et puis il attend, les jours passent et il commence à s'inquiéter, et finalement il fait pas partie du lot des partants, et à partir de là il se retrouve coincé dans son entreprise parce que il ne peut pas partir avec les conditions du PSE, mais il pourrait s'il part, c'est assez frais et assez risques et périls, donc
sans indemnité
comme on dit. Donc la machine se grippe, tout part à volo, et c'est une spirale sans fin, une violence sourde qui se met en place pour le pousser à la faute, pour l'isoler, parce que ça fait, c'est pas bien d'avoir souhaité partir de sa propre entreprise. Donc on connaît, c'est un texte évidemment de Rémi DeVos, qui est artiste, auteur associé du Théâtre du Nord. Je crois que c'est la cinquième fois que Christophe Rauque monte un texte de Rémi DeVos. On a déjà entendu au théâtre des pièces qui portent sur la violence sociale. Je pense à Loin d'Agondange, Jean-Paul Vinzel, ça c'était il y a très longtemps, Deywood, de François Bon, Les filles de Lévis, ou plus près de nous, La Redoute, qui c'est qui commande de monter à Roubaix, à propos des filles de La Redoute. Donc c'était, mais on entend toujours la parole des petits, c'est-à-dire des ouvriers, des ouvrières, de ceux qui sont tout en bas de l'échelle et pour qui la vie s'écroule parce que eux, départ volontaire ou pas, ils n'ont pas de quoi imaginer monter leur propre entreprise ou je ne sais pas quoi. Et là, il se trouve que le parti pris de Rémi DeVos, c'est de mettre en scène un personnage qui n'est pas très sympathique. C'est un cadre sûr de lui, arrogant, mesquin, menteur, d'une grande misogynie, manipulateur avec les femmes, avec son épouse, avec sa maîtresse, enfin le type, on a envie de lui mettre des claques, ouais. Des claques, et on le voit s'effondrer, physiquement. Donc c'était assez impressionnant, c'est Michel Escaut qui incarne ce personnage, et Michel est quelqu'un d'extrêmement longiligne, très très fin, et pour porter à la scène ce texte, Rauque a eu l'idée de la tourette, mais pas une tourette pour changer de décor. C'est une tourette où les cloisons...
Une tournette, non ?
Une tournette.
C'est la folie.
Donc, l'idée de la tournette, ce n'est pas de changer de décor au fur et à mesure, mais de dresser un espace mental labyrinthique où l'on se perd en même temps que commence le procès de ce jeune homme au prud'homme contre sa banque. Et donc, les paroles du procès nous arrivent floues, tout est flouté, puis finalement, au fur et à mesure, l'espace se déleste de ses cloisons, on en arrive où il n'y a quasiment plus rien, si ce n'est cet espace vide sur lequel il tourne, où il court comme un homme pressé, un homme usé, un homme qui n'a plus de recours. Et ça marche formidablement bien, c'est extrêmement fluide, c'est très habile. La question sociale portée par ce biais-là, c'est une façon décalée de parler de quelque chose d'important, du monde du travail, avec des acteurs, j'ai cité Michel Esco, mais tous autour sont...
Virginie Colmin, David Houry, Annie Mercier, Stanislas Stanić.
Annie Mercier, en rôle de juge et de maire, qui est formidable, voilà.
C'est jusqu'au 26 mai au Théâtre du Nord, ça s'appelle Départ volontaire, c'est un texte de Rémi Devos, mise en scène de Christophe Rauque, et nul doute, on le souhaite, que ce spectacle tournera.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Dernier spectacle à notre affiche, Tchekhov à la folie. Deux pièces réunies par le metteur en scène Jean-Louis Benoît, La demande en mariage et L'ours d'Anton Tchekhov. Donc, à voir jusqu'au 14 juillet au Théâtre du Poche, Montparnasse. Il s'agit de deux pièces de jeunesse. L'auteur avait moins de 30 ans lorsqu'il les a écrites. Deux plaisanteries, selon Tchekhov, qui soutenait qu'on puisse y trouver le moindre intérêt. On pourrait dire aussi deux jeux de massacre, des situations où l'absurde côtoie sans cesse la violence. Alors après, le spectacle de Zabou, on reste chez les fous pour faire plaisir à Marie de Sirach. Deux pièces qui sont jouées dans une traduction d'André Markovitch et de Françoise Morvan. Impression générale sur ce spectacle, Marie Sorbier.
Beaucoup de bruit pour pas grand-chose.
Marie de Sirach.
Tourbillon farcesque.
Et Anna Sigalevitch.
Un joli spectacle.
Natalia Stepanovna.
Excusez, je suis en blouse, hein, en tous les jours. On écosse les pois pour les mettre à sécher. Pourquoi vous restez si longtemps sans venir? Asseyez-vous. Entendez-vous quelque chose?
Non, merci, j'ai déjà mangé.
Ah. Vous pouvez fumer, hein? Voilà, des allumettes. Un temps magnifique. Et hier, il pleuvait si fort que les ouvriers n'ont rien fait de la journée. Combien avez-vous fauché? Moi, figurez-vous, j'ai voulu aller plus vite que la musique. J'ai fauché tout le prêt. Et ben maintenant, je m'en mords les doigts. J'ai peur que mon foin ne pourrisse. Hein. J'aurais mieux fait d'attendre. Enfin, que se passe-t-il? On dirait que vous êtes en abus. Ah, voilà du nouveau. Vous allez au baume. Remarquez, ça vous met en valeur, hein. Non, vrai, comment se fait-il à quatre épingles comme ça?
Voyez-vous, très honoré, Natalia Stepanovna, le fait est que je me suis décidé à vous prier de m'entendre. Bien sûr, vous serez étonné et même fâché, mais je...
De quoi s'agit-il?
Le théâtre des Poches Montparnasse qui porte bien son nom, hein, parce que c'est pas un espace de jeu immense. Alors comment est-il occupé, Marie Sorbier, cet espace?
Eh bien justement, comme la scène du Poche n'est pas très grande, je trouve que c'était déjà un tour de force de la part du scénographe Jean Haas d'avoir réussi à y insérer, parce que c'est une reproduction réaliste d'un intérieur typique russe du 19e, une espèce de datcha comme ça. Alors on est... dans une maison plutôt paysanne sur la première pièce, donc La demande en mariage, qui va se transformer dans un intérieur un peu plus bourgeois par quelques accessoires ajoutés pendant le noir qui sépare les deux pièces. Mais c'est peut-être donc le même espace, hein, qui occupe les deux pièces. Les deux pièces ont un acte, donc c'est très rapide. Et l'interlude est dans un noir qui permet justement les ajustements nécessaires pour ces deux pièces. On est dans un salon avec une porte en fond de scène qui donne sur un couloir que l'on aperçoit et qui donc mène vers l'extérieur, porte qu'on se gênera pas de faire claquer plusieurs fois pendant le spectacle. Et puis quelques objets réalistes comme ça sur le plateau, des chaises en paille, des carafes d'eau, des châles sur les patères. Enfin,
un petit écureuil empaillé.
Un petit écureuil et un tue-mouche. Et un sur la table, hein, donc les tue-mouches, le ruban tue-mouche, voilà, le scotch sur lequel les mouches s'engluent, qui donc trône au-dessus de la table principale.
Comme il se doit.
Voilà, et puis donc les trois acteurs qui incarnent leurs personnages, donc au premier sens du terme, hein, les acteurs incarnent leurs personnages.
C'est un commentaire, ça,
Marie-Sorbier, je crois, déjà. Tout, grimaces et costumes inclus.
Allez, on entre dans cette double proposition, et c'est souvent d'ailleurs monté ensemble, là, ces deux pièces, c'est pas la première fois. Anna Sigalevitch.
Oui, c'est souvent monté ensemble, mais c'est deux pièces qui n'ont pas vraiment de lien, et là, Jean-Louis Benoît n'a pas spécialement fait de lien, enfin, un petit lien. Bon, disons que la Natalia Stepanovna devient endeuillée, quand elle devient Elena Ivanovna, elle devient endeuillée, et le feu mari, c'est le portrait de celui qui deviendra son époux à la fin de la demande en mariage.
Personne n'a rien compris, mais c'était bien.
Ah bon ?
Ouais.
Si.
Non, mais nous on l'a vu, mais bon, c'était très joli, Anna. Bon. Donc il n'y a pas vraiment de lien entre les deux pièces.
Pas vraiment de lien. Voilà. Un tout petit lien. Voilà. Alors c'est un spectacle qui est très artisanal, comme le décrivait Marie, hein, dans ce tout petit théâtre où les spectateurs sont collés les uns aux autres, à quelques mètres des acteurs. Donc voilà,
le premier rang doit être à 50 cm des acteurs.
50 cm des acteurs, oui, c'est vrai qu'on est très très proche.
On voit les acteurs de près.
Donc on voit les acteurs de près et on voit absolument, absolument tout. Moi, je trouve qu'elles sont très difficiles à mettre en scène, ces pièces en un acte de Tchekhov, parce qu'il y a beaucoup de choses, en fait, dedans. Et que comme ce sont des pièces courtes et que les situations dégénèrent très, 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 très vite, on peut vite arriver à une forme d'hystérie et de saturation. Surtout dans un petit théâtre comme le théâtre de Poche, où on entend tout, etc., comme je vous le disais. Et là où je trouve que le spectacle est réussi, c'est que déjà ce sont trois acteurs qui sont très bien et qui sont très incarnés, comme le disait Marie, mais pour moi dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que Emmeline Bayard, elle est touchante, elle a vraiment et l'aspect comique du rôle, une sorte de grande gigue avec de grands yeux écarquillés, mais il y a de la profondeur en elle, il y a de la densité. Et chez ces trois acteurs, il y a de la densité. Donc, on a cette chose qui est si importante chez Tchekhov, c'est l'ambivalence des sentiments, des personnages, qui doivent, malgré l'absurde de la situation, rester humains et terriens et réels. Et je trouve qu'on a tout ça. Donc, et puis, ce sont quand même des pièces difficiles à mettre en scène, mais qui sont délicieuses. Donc, c'est un... Il y a un plaisir aussi de spectateur et de salle. C'est-à-dire que j'y étais hier après-midi, c'était bondé et les gens sont heureux de voir, d'entendre et de voir ces pièces interprétées avec autant de ferveur.
Alors, peut-être pas tous les spectateurs ou toutes les spectatrices, Marie Sorbier sur cette.
Non, moi, ça m'a été très pénible comme représentation parce que. C'est quand même très braillard, ça hurle. Alors en effet, la taille de la salle, on va pas y revenir 15 fois, mais c'est vrai que ça joue. Et comme ils projettent beaucoup, du coup, on prend quand même les cris très forts. Moi, j'étais vraiment scotchée à l'arrière de mon fauteuil. J'ai eu l'impression de vivre une représentation très agressive. Agressive dans les deux sens, par le bruit. Donc en effet, les portes qui claquent, qui hurlent, les yeux qui s'écarquillent, c'est très grimaçant. On a beaucoup de mimiques. Alors en effet, c'est une farce, hein. Je l'entends, le texte est écrit comme ça, mais... Pourquoi le surligner à ce point, je ne sais pas. Et ce qui m'a le plus gênée, c'est que je n'ai pas compris ce qu'avait voulu faire le metteur en scène. C'est-à-dire qu'on a une lecture vraiment très premier degré de ce texte. Il n'y a pas de prise de position, pas de recul, pas d'idée à mettre en avant. On est vraiment dans le texte, je te le donne, je te le projette à la tête. Et en effet, alors on le prend, mais l'agression, la double agression, elle vient aussi de ça. C'est-à-dire qu'on se sent tellement... happé. Les acteurs viennent tellement chercher tous les spectateurs et en effet les salles sont pleines et ça rit beaucoup que moi ce apnone, être harponné comme ça par les acteurs pendant cette heure-là m'a été très désagréable.
Marie-Joëlle Sirach, sur ce Tchekhov à la folie.
Non, j'ai trouvé ça assez sympathique, cette farce qui se situe dans un monde paysan ou un peu mal dégrossi, que ce soit les hommes ou les femmes, ils sont tous un peu quand même bourrus, pour pas dire autre chose. Je trouve qu'on entend bien l'ironie, le grotesque de situation permanente qui est sous-jacent, qui est présent dans la pièce de Tchekhov. C'est vrai que c'est des petites pièces très courtes. On sait quand on y va qu'on va rire. et les acteurs le savent, donc il faut qu'ils en voient. Je les trouve, moi, plutôt bien, que ce soit Emeline Bayard, qu'on avait vue dans Fric Frac, j'avais trouvé formidable dans Fric Frac. Je l'ai découvert cette année, je l'avais pas vu au cinéma.
Elle a joué Bécassine au cinéma pour Bruno Podalydès, voilà, et puis elle a un tour de chant qui s'appelle Del à Louis, qu'elle tourne depuis un certain temps et qui est très beau aussi.
D'accord. Bon, mais c'est une actrice qui est effectivement touchante parce qu'elle a un physique un peu, non pas ingrat, mais assez. Elle est grande, elle correspond pas aux critères un petit peu en vogue et tout.
Elle fait plus début 1900, hein. Il n'y a pas de doute, ouais, physiquement.
Elle, quelque elle chose, est taillée, ouais. elle a un côté paysanne. Enfin, je trouve que ça lui va vraiment bien. Enfin, c'est vrai, début 20e siècle, elle a ce physique-là de ces actrices-là. Et c'est assez beau. Moi, j'aime beaucoup parce que elle est très présente. Elle est alors ce que la seule petite réserve que j'ai sur les acteurs, c'est peut-être dans la deuxième, dans l'ours, Jean-Paul Faré en Amoureux transi. On y croit beaucoup moins. Alors il joue dans le premier, dans La demande en mariage, il est impeccable. Dans le père, c'est tout à fait bien. Dans l'autre, il est pas très crédible, hein, comme jeune homme vert amoureux de qui court après cette jeune femme. Mais bon, après, c'est peut-être aussi une question de budget, j'en sais rien, moi.
Oui, non, mais il y a trois comédiens. Voilà,
il aurait dû en avoir un quatrième, mais ouais. Je sais pas.
Mais c'est vrai que alors beaucoup Jean-Paul Faré
mais et aussi
et
ailleurs,
aussi ses seuls en scène formidables. C'est un acteur vraiment qui aime le théâtre et puis on le voit souvent comme spectateur. Ils sont pas si nombreux.
Absolument.
Mais c'est vrai que je l'ai trouvé un petit peu en dessous et on n'a pas cité le nom de Manuel Lelièvre, qui est formidable, on a la chance de voir assez régulièrement, mais qui, je trouve, avec Emeline Bayard, ça forme quand même un duo, alors certes, qui braille peut-être, Marie Sorbier, j'entends votre réserve, mais moi, ça m'a pas tant gêné que cela, je dois bien l'avouer, j'étais... dans une sorte de plaisir très très vieux théâtre, mais dans ce qu'il a de bon. Enfin, je m'imaginais, c'était donné dans une baraque de fête foraine. Enfin, vraiment à l'ancienne, le théâtre de Tréteaux. On en voit. Alors, effectivement, le texte, il y a quand même aussi cette mécanique qui, quand même, hilarante. Enfin, la demande en mariage, la façon dont cette demande n'arrivera pas. Enfin, après bien des malentendus et des disputes, c'est absolument hilarant parce que on voit des animaux. Quoi, il y en a un qui commence à gronder, l'autre qui essaye de se réfréner et puis d'un coup il se saute à la gueule, enfin, ouais. Et on essaye de se réfréner à nouveau et ça redescend. Enfin, moi j'aime beaucoup, ce sont des montagnes russes, Anna Segalevitch.
Oui, absolument, et ça la mécanique, on la sent bien. Moi, la réserve que j'ai, c'est que en fait, en effet, dans cette si petite salle, alors si on choisit cette outrance, pourquoi pas, mais le dosage me paraît pas complètement réussi.
D'accord avec vous.
Parce que je dirais que ça ne va dans ce cas-là pas assez loin dans le burlesque. C'est-à-dire que ça reste quand même dans ce qui est amené au départ, hein, dans le cadre qui est proposé au départ, qui ne sort pas complètement de ses contours prédéfinis. Et on se dit, alors si on commence là et qu'on donne ce ton-là, alors allons-y encore plus.
Pour le coup, on aimerait bien peut-être que le quatrième mur s'abatte de temps à autre. Enfin, cette salle, elle permet ça aussi. La montée dans cette salle-là, on se dit, mais pourquoi pas descendre? Enfin, on en voit beaucoup trop de comédiennes, qui descendent du plateau. C'est une tarte à la crème. Mais là, je me suis dit, il manquait quelque chose, qu'on m'attrape un petit peu plus.
Au-delà du réalisme et du figuratif et des costumes, tout ça qui fait en effet très vieux théâtre et qui pour moi est
mais
difficile
c'est pas péjoratif, quand
à
je
voir.
Ça.
Moi,
quand
un peu plus.
Quand tu l'es joué comme ça.
Mais parce que, pour le coup, c'est un goût personnel où j'ai du mal à y accéder. Parce que pour moi, le théâtre, c'était pas ça. Alors, du coup, voilà, j'ai un décalage là-dessus. Mais au-delà de ça, je suis d'accord avec Anna. C'est que ce qui fait encore plus vieux théâtre et qui, pour le coup, là, est dérangeant, c'est que ça ne sort pas du cadre. Et qu'en fait, le burlesque, il sonne un peu petit bourgeois. Il y a quelque chose qui est faux dans cette outrance-là qui ne va nulle part et qui reste dans le cadre de cette datcha.
Anna Skenevitch ?
Vous
acquiescez ? Marie-Josée, Psirache ?
Oui, enfin... Bon, je trouve que quand même ça reste un joli petit spectacle. Si je pensais à l'ouvreuse du Poche Montparnasse qui est russe, je trouve ça formidable parce que elle se met à parler en russe pour demander aux gens de s'installer, de se serrer, d'éteindre leur portable.
Pas moi, elle était pas russe.
Ah ben moi, elle était russe et c'était très très drôle. Il y avait une partie de la diaspora
vous êtes
russe.
Vous êtes la seule qui aurait pu comprendre, Anna.
Et c'était très amusant. Donc du coup, on se serait cru à Moscou. Et voilà. Donc le dépaysement était total. Merci.
Oui, parce que c'est un plaisir quand même, je trouve.
Chekhov à la folie. Les deux pièces, donc La demande en mariage et L'ours d'Anton Tchekhov, mise en scène par Jean-Louis Benoît. C'est jusqu'au 14 juillet au théâtre du Poche Montparnasse. Et avant de conclure cette émission, c'est l'heure du jeu de la dispute avec Joséphine Dumoulin, qui va tout d'abord nous rappeler la question qu'elle posait elle-même, et oui, vendredi soir.
Alors la question était, quelle comédie réalisée par les frères Cohen est librement inspirée de l'Odyssée d'Homère? Et la réponse était Oh Brother.
Ce soir, on fait gagner des invitations à la lecture du texte Le Grand Marin de Catherine Poulain. Ce sera une lecture par Suliane Brahim de la Comédie Française. Ça aura lieu samedi 25 mai à 15h à la Bibliothèque Nationale François Mitterrand à Paris. C'est à l'occasion du Festival de la Bibliothèque Parlante. Petite parenthèse, ce dit festival s'ouvrira par une dispute spéciale vendredi à 19h, ouverte au public. Et cette dispute sera menée par Lucille Caumont et on y dévoilera le manuscrit de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Bon, après cette longue parenthèse, je le redirai, la question, Joséphine.
Quelle profession, dont le quotidien est raconté dans Le Grand Marin, la romancière Catherine Poulain a-t-elle auparavant exercé?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Aïssa Tondoy, Lucille Caumont, Boris Pinault, Joséphine Dumoulin, la prise de son Anthony Thomasson, réalisation Alexandre Fougeron. Informations sur notre émission à retrouver sur le site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Demain à 19h, une dispute musique avec Lucille Caumont, Sophie Bourdet, Laurent Burier, notre programme Macbeth de Verdi, dirigé par Myung-Woon Chung, mise en scène Damiano Micheletto, à voir sur Opéra Vision, en ligne donc. Deux disques, The London Album et The Paris Album, de l'ensemble Diderot, pour les sonates en trio en France et en Angleterre avant 1700. Et puis un coup de cœur de Sophie Bourdet pour un disque consacré à Fauré, Poulenc et Debussy par l'ensemble Hadès. Et un petit salon de Lucille Caumont consacré à la saison à venir des maisons d'opéra.